Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour, Luc Vidal-Giraud.
Alors vous êtes, je le rappelle, président de la Société Académique des Hautes-Pyrénées depuis maintenant plusieurs mois. Eh bien, nous vous suivons religieusement à l'intérieur de nos églises pour en découvrir les merveilles patrimoniales et aussi en comprendre l'architecture et le lien qu'elle peut avoir avec la liturgie. J'avoue être un peu profane en la matière, mais toujours vous écouter avec bonheur. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de nos émissions sur le site internet de Radio Présence, rubrique programme local Tarbes et Lourdes, émission patrimoine avec Thibaud de Rouvray. Alors, il était bon de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons, m'avez-vous dit, marquer une pause au seuil du sacré. Alors, il va nous falloir en quelque sorte montrer patte blanche pour franchir les clôtures du chœur. Depuis les origines, une séparation physique existe dans les églises entre l'espace profane, celle des fidèles, la nef, et le sanctuaire qui, lui, est le domaine des prêtres et lieu des mystères du culte. Alors, est-ce que c'est vraiment depuis les origines ?
Oui, on peut, voilà, pour ce qu'on en connaît, c'est vrai que même dans les églises paléo-chrétiennes les plus anciennes, on peut retrouver cette séparation. Et je dirais qu'elle est un peu l'héritière aussi d'une disposition qu'on retrouve dans les basiliques romaines, même avant la christianisation, où il y a une différence entre un espace vaste, une sorte de nef, et un espace plus sanctuarisé qui est séparé, qui est réservé aux prêtres.
Alors cette séparation entre profane et sacré prend plusieurs formes, on va s'y attacher. On parle notamment de chancel, de jubé, de clôture de cœur, de barrière de communion. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le chancel ?
Alors le chancel, c'est vrai que c'est une barrière qui n'est pas forcément très haute, hein, qui est en général en pierre ou parfois en métal. Et là, ça renvoie vraiment à une période très ancienne. On parle vraiment d'art paléo-chrétien, des premières basiliques, notamment romaines.
Elle a une forme... quelle forme a-t-elle ?
Alors c'est une clôture en pierre qui fait un peu moins d'un mètre de haut. Hein. C'est une clôture qui est fermée de pierre, qui fait le tour du chœur, du sanctuaire, pour le séparer du reste de l'église.
Alors vous parlez de pierre ou de métal ? On n'en trouve pas en bois.
Alors vraisemblablement ça existait, mais c'est vrai que bon, le bois est un matériau un peu plus périssable. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple conservé en effet.
Alors précisément où trouve-t-on ces chancelles ?
Alors, il y en avait dans la plupart des églises, des cathédrales, des basiliques, hein, partout dans le monde chrétien, mais c'est vrai que c'est surtout en Italie et à Rome qu'on peut encore en observer, notamment à l'église Sainte-Sabine à Rome, où on a un exemple qui remonte au 5e siècle.
Alors, quelle est leur fonction précisément et où les trouve-t-on à l'intérieur des églises ?
Alors, on les trouve, c'est une sorte de clôture qui va être installée autour de l'autel majeur, du maître-autel, et ça permet vraiment voilà, d'isoler physiquement, de représenter aussi symboliquement l'espace le plus sacré hein, qui est réservé au la cérémonie du culte, espace dans lequel seuls les prêtres, normalement, vont pouvoir accéder.
Alors ce sont aussi des éléments qui souvent sont très ornés et richement sculptés, m'avez-vous dit ?
Oui, voilà, parce que ce sont des dagues de pierre pleines ou travaillées à jour, mais qui sont en général en matériaux précieux, notamment en marbre, et qui vont être décorées de motifs de végétaux, de rosaces. Voilà, notamment, on en retrouve aussi dans l'art carolingien.
Alors c'est une question que je vous avais déjà posée, mais qu'est-ce qui détermine, alors je crois qu'il y a un aspect financier, mais qu'est-ce qui détermine les motifs et des sculptures ? Qu'est-ce qui décide que ça aura telle ou telle forme dans tel ou tel édifice ? C'est l'évêque du lieu ? C'est le seigneur du lieu ? Comment ça se passe ?
Oui, regarde, notamment dans le cas des basiliques romaines, voilà, on va avoir vraiment une influence des grands prélats et notamment de la papauté pour déterminer déjà la richesse de dotation, puisque les matériaux sont très riches. Du marbre, on peut avoir des incrustations de mosaïques, hein. On a aussi de l'art qui est vraiment hérité des techniques de l'Antiquité romaine.
Alors quelques exemples illustres, ici ou ailleurs ?
Oui, donc à Rome, il y avait donc l'église Sainte-Sabine, on peut aussi observer des restes de chancel à la basilique Saint-Clément du Latran, entre le 6e et le 12e siècle.
Dans notre région également, peut-être ?
Alors dans notre région, on va en retrouver à l'état de vestige à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne, il n'y a plus de chancel, l'église a été rebâtie au cours des temps, mais lors de fouilles, hein, on a retrouvé des fragments de dalles de marbre décorés qui appartiennent à ces chancels de l'époque du haut Moyen-Âge.
D'accord, et ils sont visibles aujourd'hui quoi, dans un musée ou dans le cloître adjacent ou...
Voilà, plutôt dans un musée, voilà, je pense notamment au musée des Augustins, puisque ces plaques de marbre avaient été récupérées par les chanoines et les avaient retournées, et ça en était servi pour graver des inscriptions pour marquer l'emplacement de tombes.
Oui, on ne perdait absolument aucun matériau, tout était réutilisable. Notre-Dame, c'était déjà du recyclage avant l'heure.
Tout à fait, notamment pour le marbre, voilà, matériau précieux, donc on retournait la dalle pour la réutiliser.
Alors, autre élément de séparation, ce que vous appelez l'arc triomphal. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui est déjà dit dans le nom.
Oui, tout à fait. Alors cet arc triomphal, c'est le mur qui donne accès au cœur des églises, notamment dans les églises romanes, même modestes, va être percé d'une grande ouverture. Hein. Alors il a une double fonction, cet arc, il a une fonction, je dirais, dans le bâti. Il faut soutenir les maçonneries du cœur, la voûte, hein, qui est très gourde, donc il faut l'ancrer, la supporter. Et ça marque aussi physiquement une sorte d'entrée dans le sanctuaire.
Il peut aussi servir de support au clocher, carrément, de l'église.
Voilà, tout à fait. Cet arc étant souvent bâti de façon très solide, avec des contreforts, il est épaulé. C'est quelque chose sur laquelle on peut avoir bâti le clocher, donc un mur percé d'arcade, qui marque aussi le seuil du chœur.
Il peut être complété, m'avez-vous expliqué, par des éléments de mobilier?
Oui, alors l'arc triomphal il est en maçonnerie, il est bâti, il peut y avoir des colonnes également qui le déterminent, mais à l'intérieur on va le compléter par des éléments en bois, notamment une barrière de cœur ou ce qu'on appelle la poutre de gloire.
Alors la poutre de gloire, là je suis très curieux, de quoi s'agit-il?
Alors il faut imaginer donc cette entrée, cette grande arcade qui ouvre sur le cœur et donc qui est à mi-hauteur juste à la naissance de l'arc, qui va être barrée horizontalement par une poutre, et cette poutre en fait va servir de support à un grand Christ, un crucifix. On a pas mal d'exemples conservés dans des chapelles ou des églises de Bretagne, par exemple.
Et dans notre région, en Occitanie, quelques exemples typiques?
Oui, alors j'en connais un bel exemple. Il y en a assez peu de conservés, mais dans l'Aveyron, dans la petite église de Saint-Paul, du village de Salles-la-Source, il y a encore la poutre de gloire en place avec son grand Christ d'époque romane qui domine toujours l'église.
Alors enfin, autre type de clôture peut-être plus dépouillés, des grilles de cœur en fer forgé.
Oui, alors là, on peut retrouver ce type de dispositif dans des abbatiales. Hein, je pense notamment à celle de Sainte-Foy de Conques, où certes, le matériau paraît très léger, mais c'est un véritable chef-d'œuvre d'art de ferronnerie. Et selon la tradition, Sainte-Foy avait la faculté de délivrer les prisonniers. Donc selon la tradition, ces grilles de Conques ont été forgées avec les fers, les menottes hein, que les prisonniers libérés amenaient en ex voto.
On était à quelle époque, là?
On est vraiment à l'époque romaine. Donc au XIIe siècle.
D'accord. D'autres exemples, je crois, dans au Pays Basque et dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, alors exemple un peu plus tardif, donc 15e, 16e siècle, dans l'église de Saint-Engrace, donc au Pays Basque, où on a trois grilles qui ferment à la fois le chœur, mais les deux chapelles latérales, et à l'église de Sarancoulin, dans la vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées, où on a une grille qui ferme le chœur où se trouvaient les stalles des moines. Et dans cette grille, une particularité, on a incorporé une chaire en fer forgé qui permettait aux moines de prêcher.
Elles étaient réalisées, j'imagine, par des artisans locaux?
Oui, en général, voilà, ça pouvait être parfois des artisans itinérants, mais on peut trouver des maîtres ferronniers qui avaient réalisé sur place ces éléments.
Thibaud de Rouvray, merci. Dans une prochaine émission, eh bien, nous poursuivrons notre voyage en votre compagnie entre profane et sacré. Merci à vous.
Merci.